Scream s'installe ce soir au pays des Helvètes pour vous raconter trois faits divers qui ont marqué ses habitants. Scream, en Suisse, c'est tout de suite.
Le 20 septembre 1990, à Tavannes, dans le Jura bernois, Serge est mort d'inquiétude. Sa fille de 18 ans, Brigitte, n'est pas rentrée à la maison. Ce jour-là, la jeune fille avait rendez-vous chez le dentiste à Bienne. Elle s'y était rendue en stop car sa voiture ne débarrait plus. Malheureusement, Serge ne la reverra pas et son corps violemment mutilé sera retrouvé sous le pont d'une autoroute. Alors pourquoi une telle sauvagerie? Il faudra attendre près de 10 ans aux enquêteurs suisses pour découvrir l'effroyable scénario de cette journée macabre.
Ça a été un énorme choc dans la totalité de la région. Qui a pu commettre un acte d'une telle sauvagerie? C'était un acte d'une sauvagerie inimaginable.
Le 27 février 1999, au lac de Lungern, en Suisse, un pêcheur fait une macabre découverte. Alors qu'il se rend sur sa zone de pêche, il aperçoit dans l'eau à demi immergée deux tonneaux, au contenu plus que suspect. À l'intérieur, il découvre deux corps entassés et coulés dans le béton. Que s'est-il passé pour ces deux hommes, rapidement identifiés comme deux collègues qui travaillaient dans le commerce de voitures? Démarre alors une incroyable enquête menée par la police de Fribourg pour tenter d'élucider ce double meurtre que la presse suisse surnomme le meurtre des barils.
Il y a eu un branle-bas de combat invraisemblable lorsqu'on a découvert ces corps ensevelis dans des tonneaux.
Le 2 avril 2002, dans le quartier des Eaux Vives à Genève, Maurice boit tranquillement son café en attendant son rendez-vous. Il vient voir son ami, Louis, 82 ans, qui tient une armurerie à quelques centaines de mètres de là. Mais en entrant dans le magasin, quelque chose le perturbe. Les étals sont en désordre et Louis ne répond pas. En s'avançant vers le comptoir, il découvre une scène difficilement supportable. Son vieil ami est couvert de sang, un tournevis planté dans le thorax. S'agit-il d'un cambriolage qui aurait mal tourné et qui pouvait en vouloir à Louis, ce commerçant apprécié du quartier? Une question qui restera sans réponse pendant de longs mois avant que la police de Genève ne soit appelée pour une toute autre affaire.
C'est impressionnant parce que la victime est une personne âgée qui visiblement s'est fait massacrer par des individus, hein, ou des individus, on ne sait pas au début, et c'est ça surtout qui choque.
Crime en Suisse revient ce soir sur le destin tragique d'une jeune autostoppeuse de 18 ans, disparue un soir d'hiver dans le Jura, sans laisser de traces. Un document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin tragique d'une jeune Suissesse qui s'est trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Un crime terrible qui a créé la psychose dans toute une région et a tenu en haleine les enquêteurs durant plus de 10 ans.
Ça a été un énorme choc dans la totalité de la région. Qui a pu commettre un acte d'une telle sauvagerie? C'était un acte d'une sauvagerie inimaginable.
Nous sommes dans le Jura bernois, région francophone du canton de Berne en Suisse. Ici, romans et alémaniques se côtoient quotidiennement. La région s'étend jusqu'au lac de Bienne, dans le Zeeland.
La plus grande ville proche, c'est Bienne, au pied du Jura bernois. Bienne qui, elle, est une ville bilingue.
Bienne sert d'aimant. Il n'est pas surprenant qu'on y descende pour une ou deux activités et qu'on remonte dans son village.
Brigitte, 18 ans, habite à 20 km de là, dans le petit village de Tavannes. La jeune femme doit justement aller à Bienne ce jeudi 20 décembre 1990. Elle a un rendez-vous chez le dentiste et doit s'y rendre en train.
Elle vient de passer son permis de conduire. Elle n'a pas de voiture ce jour-là. La voiture se trouve en réparation.
L'après-midi se passe, mais Brigitte ne rentre pas de son rendez-vous. Une absence qui étonne ses parents, mais ne les inquiète pas.
Le soir, on s'est dit, elle n'est pas rentrée. Disons, ce qui nous inquiétait le plus, c'est qu'elle ne nous ait pas téléphoné. Mais en principe, si elle ne rentrait pas ou si elle, il y avait quelque chose, elle nous avertissait. Donc elle ne nous a pas avertis.
Mais voilà, la nuit se passe et Brigitte n'a toujours pas donné signe de vie. Ses parents commencent sérieusement à se poser des questions.
Le lendemain matin, elle n'était pas là. Alors on a commencé de s'inquiéter. J'ai fait la tournée des établissements publics où elle avait l'habitude d'aller. On a un peu cherché aux alentours de la maison.
En cette fin d'année 1990, alors que tout le monde prépare les fêtes de Noël, du côté de la famille de Brigitte, l'heure est aux recherches et à l'inquiétude. Pourquoi la jeune femme n'est-elle pas rentrée? Et pourquoi n'a-t-elle pas prévenu ses parents? Est-elle en sécurité chez des amis? Ou a-t-elle fait une mauvaise rencontre? À Tavannes, cela fait maintenant plusieurs jours que Brigitte a disparu. Malgré l'inquiétude, ses parents continuent de la chercher et surtout gardent espoir. La jeune femme a 18 ans et elle a peut-être tout simplement fait une rencontre et pris l'air pour quelques temps.
On a pensé au bout de quelques jours qu'elle avait fait une fugue parce qu'elle n'en avait jamais fait, mais il peut y avoir une première. Puis c'est dans un certain sens refuge de penser qu'elle a fait une fugue. Comme ça, on ne pense pas encore au pire.
Par mesure de sécurité, Serge prévient la police, qui procède également à des recherches. Mais au bout de 10 jours, sans nouvelles, les enquêteurs décident de passer à l'étape supérieure en diffusant dans la presse un appel à témoins.
On imprime une affiche. C'est un fait très marquant parce que le visage souriant de Brigitte Didier, cette coiffure des années 80, comme ça, c'est une image qui va rester, qui va s'imprégner derrière les paupières.
De nombreuses personnes vont appeler et dire qu'elles ont vu Brigitte un peu partout en Suisse. Les policiers écument le pays, en vain. Pourtant, un appel va retenir leur attention et permettre de savoir avec certitude que Brigitte a été vue après son rendez-vous chez le dentiste. Il était alors 15h15.
La police a trouvé que quelqu'un qui a certifié qu'elle faisait du stop à la sortie de Bienne.
Mais cette piste s'arrête là. Ce samedi 5 janvier 1991, cela fait maintenant 15 jours que Brigitte a disparu. Quand des enfants s'aventurent sous le viaduc de Bienne, à quelques kilomètres de l'endroit où la jeune femme a été prise en stop.
Les enfants jouent tout simplement sur ce terrain en dessous de ce pont d'autoroute, une autoroute qui monte en fait, qui est un peu à flanc de coteau. Et puis ils voient quelque chose, ils s'en approchent et voilà, ça c'est un coup.
Les enfants alertent la police qui arrive sur place. Les enquêteurs découvrent le corps et reconnaissent immédiatement Brigitte. Son corps est en partie dénudé et autour d'elle, un premier élément les interpelle. Son jean est soigneusement plié et ses bottes sont posées à côté d'elle. L'agresseur n'a laissé aucune chance à la jeune femme, selon les premières constatations.
La jeune femme a des lésions à la tête, des lésions dans le dos, des lésions devant, dans le thorax. Et vraisemblablement aussi quelques lésions, peut-être internes, parce qu'il y a un petit peu de sang qui a coulé sur une des jambes.
Visiblement, Brigitte a subi un véritable calvaire. Le corps est envoyé à l'Institut médico-légal de Zurich pour y être autopsié. De son côté, la police se rend chez la famille pour leur annoncer la terrible découverte.
Ils ont sonné, ils sont rentrés, et puis d'après la tête qu'ils avaient... On s'attendait à ce qu'il nous annonce quelque chose d'assez grave. Ça serre. Mais c'est pas facile à expliquer. Si c'est explicable.
Après 15 jours d'attente et d'espoir, la vie de Serge et des siens vient de basculer dans l'horreur. Sa fille, Brigitte, a été sauvagement tuée sous le viaduc, à quelques kilomètres de chez eux. Mais qui a bien pu être capable d'une telle atrocité? Brigitte a-t-elle été victime du conducteur qui l'a prise en stop? dans le Jura bernois, tout le monde ne parle plus que de l'assassinat de Brigitte. Ce crime odieux fait la une de tous les journaux et soulève l'incompréhension. Laurent connaissait Brigitte, il se souvient encore de cette terrible nouvelle.
Ça a été un énorme choc dans la totalité de la région. C'était plutôt une synergie de groupe, une réaction de groupe, en étant apeuré, révolté, outré, et surtout en se demandant qui a pu commettre un acte d'une telle sauvagerie. C'était un acte d'une sauvagerie inimaginable.
Au commissariat de Bienne, les policiers, eux, s'intéressent à la vie de Brigitte afin de retracer ses dernières heures. Ils tentent de savoir si quelqu'un aurait pu lui en vouloir.
Brigitte Didier est une fille unique d'abord, choyée, aimée de ses parents. C'est une fille très sociale, très souriante, rigolote, on l'a décrit, ses amis disent d'elle qu'elle est drôle, qu'elle est amusante, qu'on aime sortir avec elle, on aime sa compagnie.
Très proche de ses parents, la jeune fille vivait encore chez eux. Elle avait récemment intégré un nouveau travail où elle se plaisait.
Je travaillais dans une pharmacie et il avait confié le soin des drogués qui vont chercher leurs médicaments le matin. D'après ce que j'ai entendu, elle était appréciée de beaucoup de monde.
À l'époque du drame, elle n'avait pas de petite amie attitrée. À 18 ans, la Tavoinaise profitait de la vie et préférait les sorties entre amis.
Bien évidemment, comme toute personne sur Terre, elle avait des amis, des inimitiés, mais il n'y avait à première vue rien d'extraordinaire qui aurait pu être une piste en disant « Oula, effectivement, manifestement, celui-là ou celle-là, il en veut à mort à la jeune femme. » Non.
Brigitte était également une belle jeune femme que l'on remarque. Du haut de son 1m80, avec son physique athlétique, elle ne passait pas inaperçue.
Brigitte est quelqu'un qui sait se défendre. C'était quelqu'un qui faisait du tir au fusil d'assaut en ce temps, comme beaucoup de jeunes Suisses. C'était quelqu'un qui n'était pas... elle ne faisait pas 1m50 et puis 40 kilos toute mouillée. C'était une personne qui était en mesure de se défendre et puis elle avait du caractère.
Un caractère qui soulève la question d'une complicité. Y avait-il un ou plusieurs agresseurs ? Quelques jours après la macabre découverte, les résultats de l'autopsie tombent. Les enquêteurs espèrent qu'ils leur délivreront de précieux indices.
L'autopsie va révéler une violence inouïe de la part du criminel et du violeur. Une strangulation probablement à main nue. Brigitte a sans doute perdu connaissance, avant de reprendre connaissance aussi. Il y a des coups de couteau portés pendant l'agression, pendant l'acte sexuel. Deux couteaux portés dans la poitrine, alors que Brigitte est déjà morte.
L'autopsie est sans appel. L'assassin de Brigitte s'est littéralement acharné. La jeune femme a été agressée sexuellement avant d'être sauvagement tuée. Mais le meurtrier a signé son crime en laissant son empreinte.
À l'intérieur des parties intimes, on trouve des traces et on trouve des traces de sperme.
Le matériel génétique est envoyé pour analyse. La police cantonale de Bienne attend beaucoup de ces résultats. Mais nous sommes en 1991 et les recherches sur l'ADN en sont à leur début. Leur espoir sera donc de courte durée. L'empreinte génétique révélée n'est que partielle.
On arrivera avec les moyens de l'époque à un profil qui finalement ne permettait pas d'inclure mais permettait d'exclure, si vous voulez, qui permettait de dire c'est pas lui qui a laissé cette trace.
Une maigre consolation pour les policiers dont l'enquête s'annonce compliquée. Qui a pu en vouloir à cette jeune fille à qui on ne connaissait aucun ennemi? Et pourquoi un tel acharnement? Cette empreinte génétique permettra-t-elle un jour de remonter au tueur? Si les circonstances de la mort de Brigitte ne font aucun doute, il manque toujours l'arme du crime. Pendant 2 jours, sous le viaduc, plus de 40 policiers et élèves de l'école de police ratissent les broussailles à sa recherche. Un travail minutieux qui va finir par payer.
Dans des buissons en contrebas, on trouve un couteau. On trouve un couteau qui pourrait être l'arme de crime.
Un couteau de cuisine, un couteau de boucherie même, une lame de 8 cm.
Sur le couteau, il n'y a aucune inscription. Mais un détail interpelle les policiers. Sa lame est émoussée et il manque un rivet. Afin de retrouver son propriétaire, les enquêteurs vont employer les grands moyens.
Il y aura la fameuse recherche avec les panonceaux où le couteau lui-même sera présenté en photo avec appel au témoin qui peut dire d'où provient ce couteau, qui avait ce couteau, enfin l'appel classique.
En parallèle, les policiers écument toutes les boucheries et restaurants de Suisse susceptibles d'utiliser ce type de couteau. Malgré ce travail de titan qui les mènera jusqu'en France, ni les appels à témoins, ni les auditions ne donneront de résultats.
Parti dans plusieurs directions, la police recentrera l'enquête sur les proches de Brigitte Didier. On pense toujours à cette époque-là que Brigitte pouvait connaître son assassin.
Ils ont même filmé à l'enterrement, à la sortie d'église, pour voir tous ceux qui étaient à l'église à l'enterrement. Parce qu'éventuellement, que le meurtrier a pu venir à l'enterrement.
Les images de l'enterrement ne donnent rien. Les enquêteurs ne relèvent aucun comportement suspect. Toujours persuadés qu'il puisse s'agir d'une connaissance de Brigitte, ils interrogent alors les amis proches de la victime. Parmi eux, Laurent.
Il me demande si je la connais, où est-ce qu'on allait boire un verre, si elle était gentille, comment elle était, les gens qu'elle fréquentait.
L'interrogatoire des amis proches ne donnant rien, les policiers vont élargir leurs recherches et interroger toutes les personnes que Brigitte aurait pu connaître. Le résultat est gigantesque et la tâche s'annonce compliquée.
Le nombre de gens qui ont été interpellés est énorme. Ça remplit des classeurs et des classeurs.
Commencent alors des auditions en nombre. Et si la plupart sont vaines, un témoignage va pourtant retenir l'attention des enquêteurs.
Il y a un conducteur de bus qui va dire que le soir où on a maintenant la certitude que Brigitte a été tuée, il a vu le long de la route, là, à proximité donc de cette scène de crime, un monsieur qui l'a un peu interpellé par son comportement. Il avait l'air un peu énervé, excité, comme ça. Et il va pouvoir faire un portrait robot de ce monsieur.
Mais l'enthousiasme des enquêteurs retombe vite. Le portrait correspond à Monsieur Tout-le-Monde. Un seul élément marquant, l'homme aperçu par le chauffeur de bus avait une moustache. L'enquête stagne, et pourtant les policiers biennois veulent encore y croire.
La police ne lâche pas prise sur l'affaire Brigitte Didier. La police, mais la population non plus, toujours très affectée par sa disparition. On veut trouver qui est l'assassin de Brigitte. Et pour y parvenir, on offrira des primes à qui pourra fournir un indice déterminant.
Pendant des années, les enquêteurs gardent espoir et se refusent à fermer le dossier. Voilà près de 10 ans que Brigitte a été tuée et son assassin est toujours en liberté. Alors toutes les pistes ont-elles été exploitées? Et les parents de Brigitte connaîtront-ils un jour la vérité? Dix ans après le terrible assassinat de Brigitte, un nouveau juge d'instruction décide de réétudier l'ensemble du dossier avec un œil nouveau. Un profiler est appelé pour analyser en détail la scène de crime. De nouvelles auditions ont lieu et surtout l'ADN est de nouveau analysé, avec cette fois-ci les technologies d'aujourd'hui.
On a deux personnes qui ont laissé des traces et qu'on a pu identifier ces deux personnes par le biais des recherches qu'on avait. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que tout d'un coup, on a deux pistes alors qu'avant, on n'en avait pas.
Une avancée extraordinaire pour les enquêteurs, mais qui va aussi donner lieu à un véritable coup de tonnerre. L'un des deux ADN correspond à Laurent, l'ami de Brigitte.
En décembre, je me retrouve arrêté de manière... Alors, j'étais totalement surpris. Et où on m'informe que je suis inculpé du meurtre de Brigitte Didier. Évidemment, c'est un peu le choc.
L'ADN de Laurent Jacquot a été retrouvé dans la face intérieure du sous-vêtement de Brigitte. Pour les enquêteurs, c'est l'étonnement, car en 1991, l'homme avait dit connaître Brigitte, mais sans plus. Il lui demande alors de s'expliquer sur la présence de cette trace.
On me dit, oui, mais vous avez été entendu à l'époque et vous n'avez pas dit que vous avez eu un rapport avec Brigitte Didier. Et de là, je le rétorque parce que cet entretien de début 91 m'avait quand même un petit peu surpris par sa légèreté. Je m'en étais souvenu. Je me rétorque, mais vous n'avez pas dit que vous avez couché avec. Je dis, ouais, mais le problème, c'est qu'on ne me l'a pas demandé. Ah, mais c'est pas grave, fallait le dire spontanément. Voilà.
Pour le juge d'instruction, cette empreinte génétique fait de Laurent un sérieux suspect. L'homme est alors placé en détention, mais il clame son innocence. En parallèle, les enquêteurs décident de s'intéresser au deuxième profil génétique, un certain Patrick.
Il y avait deux traces qu'il mettait en cause. Un, ressortant des traces trouvées à l'intérieur du corps des parties intimes de Brigitte, et l'autre aussi sur le slip.
Patrick est un Suisse alémanique. Il habite à quelques kilomètres de Bienne. Il exerce différents petits boulots. Quand Brigitte est assassinée, il était chauffeur-livreur. L'homme est un fort à bras, passionné de bodybuilding. Daniel, double champion de Suisse, l'a bien connu.
C'était une très grande gueule, quelqu'un qui parlait beaucoup. Il était plutôt malin et s'entraînait énormément dans la salle.
Si l'ADN de Patrick est identifié, c'est tout simplement parce qu'il est inscrit au fichier des empreintes génétiques. L'homme purge une peine de 17 ans pour le meurtre d'Octay, son professeur de bodybuilding. Octay était le meilleur ami de Daniel. Il se rappelle de cette terrible annonce.
C'était vraiment un choc, je ne m'y attendais absolument pas. J'ai toujours su que quelque chose de grave pouvait se passer, car Octay avait quelques histoires. Mais que ça se passe ainsi, c'était un choc.
Laurent et Patrick en détention, la question d'une éventuelle complicité refait surface. Les enquêteurs cherchent si les deux hommes auraient pu se connaître et fouillent dans leur passé. Mais rien ne relie les deux suspects.
Patrick B. Nie, comme Laurent Jacquot, toute participation au crime de Brigitte Didier. Il ira jusqu'à refuser de voir les images du crime que lui présente la police. Mais il nie avec un détachement qui paraît suspect.
Patrick maintient que les analyses sont fausses. Laurent affirme avoir eu un rapport avec la jeune femme bien avant le drame et que la présence de son ADN n'aurait aucun lien avec le meurtre.
Au moment où je suis en détention, je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est relativement lourd à supporter dans la mesure où on ne connaît pas, on connaît le début, on ne connaît pas la fin de cette histoire.
Le procureur trouvera finalement des recherches scientifiques confirmant qu'une trace d'ADN peut résister au lavage. Laurent Jacquot est donc mis hors de cause et relâché après avoir effectué 64 jours de détention. L'étau se resserre alors sur Patrick.
C'est à ce moment-là que le porte-robot a réapparu un petit peu et que, effectivement, en allant chercher les photos de M. B à l'époque des fêtes, on devait quand même constater que c'était assez proche.
Un portrait-robot très ressemblant, mais aussi un comportement. Le chauffeur avait parlé d'un homme complètement paniqué. Une attitude similaire à celle que Daniel avait pu observer en 1997. Il avait en effet croisé Patrick, juste après qu'il ait tué Octay.
C'était un soir, il était dehors et j'ai croisé Patrick. Il promenait son chien, mais il avait l'air complètement paniqué. Il était trempé, en nage, il n'avait pas le temps de parler avec moi. Il était blême, je ne l'avais encore jamais vu comme ça. J'ai tout de suite compris que quelque chose de grave s'était passé.
Pour la justice biennoise, l'implication dans le meurtre de Brigitte ne fait aucun doute. Les parents de Brigitte, eux, attendent désormais le procès de l'assassinat de leur fille. Alors Patrick avouera-t-il ce crime sordide ? À Bienne, la justice a rendu un non-lieu pour Laurent. Une procédure qui s'est achevée 3 ans après son incarcération. Après un long combat, l'homme a pu obtenir gain de cause, mais surtout que la justice reconnaisse l'erreur. Et le 17 mai 2005, 15 ans après les faits, c'est le procès de Patrick qui s'ouvre à Bienne.
Le fait marquant du premier procès de Patrick B, en première instance, c'est la présence des parents. C'est la présence des parents qui voient pour la première fois le meurtrier de leur fille unique.
Il est là, il est assis sur sa chaise. Et puis c'est de là que viennent nos ennuis. Puis on se demande pourquoi. C'est comme si j'étais, je sais pas, moi, un pot de fleurs ou machin, je sais pas. Puis on a reçu le pot de fleurs sur la tête, ben c'est lui qui est là.
Patrick est inculpé de l'assassinat de Brigitte. En Suisse, cette notion, au-delà de la préméditation, implique l'absence de scrupules et une façon particulièrement odieuse d'agir. En revanche, pour les faits de viol, l'homme ne peut être jugé en raison de la prescription.
J'ai le souvenir d'un homme détaché, sans grande émotion. Un homme qui nie l'évidence, des traces ADN.
Il a toujours nié connaître Brigitte Didier. Parce que les traces, elles sont là. Elles ont été analysées 3 fois. Elles ont été analysées 3 fois pour être sûres, avec des méthodes différentes d'ailleurs, entre la première et la deuxième analyse, pour voir que vraiment on ne se trompe pas.
Pour les experts, aucune erreur n'est possible. Il s'agit bien de l'ADN de Patrick. Pourtant, l'homme ne change pas de défense et continue à nier. Un comportement difficile à accepter pour la famille de Brigitte, qui, sur le banc des victimes, souffre en silence.
Toute la période du procès, j'ai toujours eu l'impression que ça a fait beaucoup de tort à ma femme. Parce que à chaque séance, à chaque truc, on remue toute l'histoire, forcément.
Lors du procès, la personnalité de Patrick va également être minutieusement analysée. Et les expertises psychiatriques sont sans appel.
L'expertise, lors du procès, si vous voyez, elle relève une personnalité où, face à une accumulation d'un stress, il y a un moment où l'homme change de face, littéralement, pour partir dans une perversité, un non-respect d'autrui, et qu'ensuite, la personnalité revient, la personnalité première revient, mais avec un processus de déni qui se met en place pour cacher ce que l'autre monsieur B a fait. L'expert psychiatre va, pour simplifier un petit peu, parler un petit peu de Hyde et Jekyll.
Selon les experts, Patrick se trouvait au moment des faits dans un état de stress important. Sa femme venait d'accoucher, sa mère était souffrante. Une succession d'événements qui auraient facilité son passage à l'acte. Une version qui ne convainc pas les jurés, qui condamne Patrick à la prison à perpétuité. Une peine confirmée en appel.
C'est vraiment une histoire très tragique. Depuis, je me dis toujours, tu n'as aucune idée de la personne qui est devant toi. Elle peut avoir un comportement avec les uns et être totalement différente avec les autres.
Les parents de Brigitte, eux, sont satisfaits du verdict et n'ont qu'un seul souhait, que cet homme ne puisse plus jamais recommencer.
On est content qu'il soit retiré de la société, mais on n'est pas heureux qu'il soit puni. Ça serait faux de dire ça. Content, oui. Satisfait. Mais ça ne nous rend pas heureux.
Plus de 20 ans après l'assassinat de Brigitte, Serge est désormais veuf. Dans sa maison de Tavannes, le père de famille pense souvent à sa fille, et toujours avec beaucoup d'émotion.
Pour moi, forcément, c'était une fille formidable, et puis j'en ai un souvenir époustouflant. Je dis tout simplement que tout le monde garde l'image qu'il en avait.
Crime en Suisse vous propose maintenant de revenir sur l'histoire incroyable de deux corps retrouvée dans le lac de Lungern, coulée dans le béton. Voici ce document exclusif pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir un incroyable crime au mode opératoire jamais vu en Suisse. Une affaire retentissante qui va impliquer un trio dont la tête pensante va faire preuve d'une froideur implacable.
Il y a eu un branle-bas de combat invraisemblable lorsqu'on a découvert ces corps ensevelis dans des tonneaux.
Nous sommes à Fribourg, cité bilingue de Suisse, réputée pour son dynamisme économique. Ici, près de 35 000 habitants se côtoient chaque jour entre vieux centres historiques et nature. Une petite ville tranquille où tout le monde se connaît.
Fribourg, c'est l'arc lémanique qui est très urbanisé, la région bernoise qui est très urbanisée. Ça se veut un canton-ville, et pourtant ça reste très rural et en français dirait provincial.
À plusieurs dizaines de kilomètres de là, Lungern, dans le canton alémanique d'Obwalde. Un endroit prisé des citadins en quête de calme. Mais ce samedi 27 février 99, un pêcheur qui a ses habitudes au bord du lac va y faire une terrible découverte.
J'observe qu'il y a un tonneau, un déchet de loin. Et il se rend sur place sur une barque. Et évidemment, il a la stupéfaction de constater en s'approchant qu'émergent de ce tonneau les jambes et les fesses d'une personne.
Des restes humains à la surface de l'eau. Désarçonné par ce funeste spectacle, le pêcheur s'approche. Il est alors loin d'imaginer ce qu'il est sur le point de découvrir.
Dans ce tonneau, on voyait juste deux pieds et puis un derrière. Et puis le reste du corps, ça a dû être encore au fond du tonneau, bétonné.
Le corps est entièrement bétonné, dans un baril de plusieurs centaines de kilos. Mais le lac n'a pas livré tous ses secrets. À cette époque de l'année, son niveau baisse régulièrement, car il est en réalité un lac artificiel, un lac dans lequel il va faire une nouvelle fois face à l'horreur en découvrant un second baril.
Et on découvrira un deuxième tonneau qui lui est à quelques mètres, un peu plus profondément enfoui, immergé. Et lui aussi présentera les mêmes caractéristiques, un corps bétonné à l'intérieur.
Le pêcheur appelle la police, qui arrive immédiatement sur place. Les enquêteurs du canton commencent alors leurs investigations. De mémoire de policiers, personne n'avait encore jamais vu ça.
La police arrive, deux tonneaux, deux corps, du béton.
Évidemment, c'est la stupéfaction générale. On peut s'imaginer, Obwalde, c'est un tout petit canton du centre de la Suisse. Les affaires criminelles y sont très rares, c'est un canton rural. Et évidemment, il y a eu un branle-bas de combat invraisemblable lorsqu'on a découvert ces corps ensevelis dans des tonneaux.
Les enquêteurs savent qu'il y a urgence. Ils vont devoir répondre à de nombreuses questions. Qui sont les victimes retrouvées bétonnées dans des barils? Pourquoi un crime aussi sordide? La Suisse a-t-elle à faire face à un prédateur d'un nouveau genre? Au lac de Lungern, les policiers commencent les premières investigations. Mais leur intervention est plus difficile que prévu. Le rivage escarpé rend l'accès compliqué. C'est donc un véritable casse-tête. Comment sortir ces deux barils de là?
Ils ont dû utiliser un hélicoptère pour aller plus près et pour sortir les tonneaux, parce que chaque tonneau pesait environ 400 kilos.
Après plusieurs heures, les barils sont extraits du lac et transporté à l'Institut médico-légal de Zurich. Les enquêteurs et plongeurs ratissent le lac et ses rives à la recherche du moindre indice. En vain. Seule certitude, la signature qui laisse peu de place au doute.
Ensevelir et bétonner des corps dans des fûts, c'est un mode opératoire qui est utilisé par des mafias.
En pensant à la piste mafieuse, on pensait aussi qu'il était possible que les tonneaux aient été piégés.
Car ce que redoutent le plus les enquêteurs, c'est que les barils soient bourrés d'explosifs. Un procédé utilisé par la mafia pour empêcher l'identification des victimes. Les barils sont donc passés au rayon X. Résultat, ils ne présentent aucun danger. Les corps sont donc minutieusement extraits du béton pour être autopsiés.
On a retrouvé dans l'un des corps 10 projectiles, 10 balles de 9 mm, et dans l'autre 12. Mais surtout, on trouve des rayures différentes sur certaines des balles.
Les conclusions du médecin légiste étaient clairement mort dû à des coups de feu, à des armes.
Pour les enquêteurs, c'est une certitude. Les deux victimes, des hommes, ont été abattus de sang-froid. Le ou les meurtriers ne leur ont laissé aucune chance. Mais rien ne permet de remonter leur piste. Seul et unique espoir, identifier les victimes.
J'ai prélevé les empreintes digitales à ce moment-là de ces deux corps. Et puis j'ai directement vérifié avec les données qu'on avait personnelles.
Contre toute attente, les empreintes digitales protégées par le béton parlent. Il s'agit d'un certain Philippe, originaire de Fribourg, et d'un certain Otto. Deux quadragénaires portés disparus 6 semaines plus tôt.
À l'époque, la disparition n'était pas inquiétante. Il y avait quelques indices ou quelques pistes qui laissaient penser que ces personnes avaient quitté la Suisse pour habiter à l'étranger, soit au Brésil, soit dans un autre pays. Donc pas d'ouverture d'enquête criminelle, simple avis de disparition.
Deux hommes exécutés par balle, leurs cadavres bétonnés et deux disparitions suspectes. Les enquêteurs sont face à une énigme. Qu'est-il arrivé à Philippe et Otto? Ont-ils réellement croisé les membres de la mafia? Qui leur en voulait à ce point? À Fribourg, la mort de Philippe et d'Otto fait désormais la une de tous les journaux. Dans ce petit canton de Suisse, même les policiers n'ont jamais vu un tel crime. Ils n'ont qu'un seul objectif, en savoir plus sur le profil des victimes, à commencer par Otto.
Il a une vie de famille, il est marié, c'était un mariage qui était relativement récent, il n'avait pas d'enfant. Il avait une belle famille à côté, car il avait plusieurs sœurs. C'était quelqu'un tout à fait tranquille, qui n'avait pas d'histoire, il n'avait pas de casier, il n'avait rien du tout.
Philippe mène une vie plus agitée. Divorcé, père d'une fillette, l'homme est connu à Fribourg par les différentes activités qu'il a pu exercer.
Il a été, par exemple, le gérant d'une discothèque en ville de Fribourg. C'est quelqu'un qui a peut-être évolué dans un milieu un peu interlope, mais sans qu'on puisse dire qu'il s'agit de quelqu'un qui soit un délinquant ou un criminel, encore moins.
Lorsque les deux hommes se rencontrent en 1998, quelques mois avant leur mort, Otto rejoint Philippe dans son affaire. Chacun a son rôle parfaitement déterminé.
Leur business, ça... Principalement, c'était des voitures. Ça veut dire qu'ils cherchaient des clients pour des leasing de voitures. Ils vendaient, ils achetaient ces véhicules.
Beaucoup de gens présentaient Otto comme une sorte d'homme de main, ce qu'il n'était absolument pas. C'était juste le collaborateur de Philippe. Sa tâche était effectivement d'accompagner Philippe quand il fallait aller chercher les véhicules chez les personnes qui ne payaient plus leur contrat de leasing. Et selon les critères de base du leasing, si on ne paye plus le leasing, on vient chercher le véhicule. Et Otto était celui qui accompagnait Philippe parce qu'il fallait aller à deux, puisque pour amener un véhicule et aller en voiture, il fallait forcément être deux.
À ce stade de l'enquête, rien ni personne ne permet d'affirmer que Philippe et Otto ont eu des liens avec la mafia. La presse, elle, se déchaîne, plongeant les familles dans l'angoisse et l'incompréhension.
au moment de la mort de Philippe, sa fille a à peine 10 ans. C'est une toute petite fille, évidemment, qui ne comprend pas ce qui arrive. Elle a accès, comme tout le monde, à la presse. Et il y aura des photos d'une violence très forte qui vont être diffusées. Et c'est un choc supplémentaire pour la fille.
C'est dans ces circonstances-là que se déroule l'enterrement des deux victimes, en toute intimité, parce que les familles sont très inquiètes de savoir si elles ont quelque chose à craindre, elles aussi.
Magistrats et enquêteurs décident de reprendre la pré-enquête qui avait été menée lors de la disparition des deux hommes. Grâce à l'étude de la téléphonie, ils vont découvrir que Philippe a reçu un ultime appel le 11 janvier à 21h27. Une communication localisée à Fribourg.
On savait qu'ils étaient en contact avec une certaine personne qui s'appelle Carlos. Et c'est clair, pour la police en général, c'est toujours dans toutes les enquêtes, la dernière personne qui est en contact avec quelqu'un, on s'intéresse.
Pour les enquêteurs, cela ne fait désormais plus aucun doute. Philippe et Otto ont été tués le 11 janvier. Que s'est-il donc passé ce soir d'hiver, après 21h27? Qui est ce Carlos? A-t-il un lien dans cet assassinat hors norme? Alors que les corps de Philippe et Otto ont été retrouvés depuis plusieurs jours, les enquêteurs s'intéressent à Carlos. À 25 ans, ce binational suisse-espagnol travaillait avec Philippe depuis 2 ans et demi.
Les personnes contactaient l'entreprise pour une proposition de leasing. Et puis la proposition, souvent, c'était Carlos qui allait la porter, qui la faisait signer.
Carlos, il était intéressant pour nous. Mais après, dès qu'on s'intéresse en personne, il faut aussi savoir avec qui cette personne est en contact. Et là, on a aussi vu d'autres personnes, entre autres un Victor et puis un Bernard.
Les deux hommes sont des amis et collaborateurs de Carlos. Les policiers veulent en avoir le cœur net et décident de les auditionner. Victor est entendu, mais rien de suspect dans ses propos. Mais Bernard a étrangement quitté le pays. Et surprise, il n'est pas parti seul.
On a rapidement recherché Carlos après la découverte des corps.
On a pu constater à ce moment-là qu'aussitôt que la découverte des tonneaux a été publiée dans les médias, il avait quitté le territoire suisse.
Carlos et Bernard sont donc partis ensemble. Les policiers décident de perquisitionner l'appartement de Carlos. La fouille ne donne rien. Aucun élément ne met en cause le jeune homme.
Carlos dispose d'un petit local au sous-sol de l'immeuble dans lequel il a son appartement. C'était l'endroit idéal. C'est un endroit qui est au sous-sol, dont les portes sont massives, insonorisées.
Tout paraît en ordre. Pourtant, les policiers retrouvent des photos prises par Carlos et un détail va attirer leur attention.
Sur une photo, on voit sur un rebord, on voit 3 armes. Et puis, au moment que nous, on est intervenus dans ce local, il y avait encore seulement 2 armes.
Une arme qui manque, une disparition soudaine. Pour les magistrats et policiers, ces éléments suffisent à lancer un mandat d'arrêt international contre Carlos. Contre toute attente, ce n'est pas Carlos qui revient, mais Bernard. L'homme est immédiatement entendu par les policiers. Après plusieurs auditions, il passe aux aveux.
Selon le dire de Bernard, c'était Carlos qui était vraiment la personne principale. Mais on ne savait pas si Bernard il nous a dit la vérité, parce qu'on n'avait ni mon preuve, de toute façon, rien. C'était ses déclarations à lui.
Pour la première fois dans cette affaire, les policiers ont un scénario. Selon Bernard, Carlos aurait tué Otto et Philippe, avec l'aide de son homme de main, Victor. Reste à confronter cette version avec celle de Carlos, qui est toujours à l'étranger. Alors pour le convaincre de rentrer en Suisse, le juge le contacte par téléphone et abat sa dernière carte, la ruse.
S'il se présentait rapidement à la justice suisse, il éviterait une longue procédure d'arrestation ou d'extradition dans un pays étranger. Sachant que là, j'ai parlé d'affaires graves, j'ai parlé d'affaires de trafic de voitures, on n'a pas parlé à ce moment-là au téléphone d'assassinat.
Le magistrat réussit alors l'incroyable tour de force de faire revenir Carlos en Suisse. Carlos est pris au piège. À peine la frontière franco-suisse traversée, l'homme est emmené au commissariat de Fribourg où l'attendent les enquêteurs.
Vu l'accumulation des éléments contre lui, il se rend compte rapidement qu'il ne peut pas contester être l'auteur des coups de feu. Il ne peut pas contester que c'est bien lui qui a tué Otto et Philippe.
Carlos est au pied du mur. Il va alors donner sa version des faits. Il confirme qu'il a bien vu Otto et Philippe ce 11 janvier 1999. Mais la rencontre aurait soudainement dérapé. Carlos aurait alors tiré sur Philippe et Otto.
Il a dit que c'est lui. Il a dû se défendre dans ce local parce qu'ils étaient agressés par ces deux, par un pistolet, qu'ils étaient armés, et puis c'était la légitime défense.
S'en serait alors suivie une macabre mise en scène pour se débarrasser des corps. Mais Carlos dit-il vrai? S'agit-il réellement d'un cas de légitime défense? Qui de Carlos, Bernard ou Victor est à l'origine de ce funeste scénario? À Fribourg, les enquêteurs sont face à deux versions contradictoires, celle de Carlos et de Bernard. Pour démêler le vrai du faux, ils doivent entendre la version de Victor, celui que Carlos désigne comme son homme de main.
Victor passera à table immédiatement, aussitôt interpellé, et encore même dans la voiture avec les inspecteurs, il va commencer à vider son sac. Manifestement, il en avait besoin.
Victor raconte tout, à commencer par les raisons de ce double assassinat. Depuis plusieurs mois, Carlos établissait de faux contrats de leasing dans le but d'empocher les commissions. Mais Philippe s'était rendu compte de la supercherie, une escroquerie de 40 000 euros.
Ses complices disaient non, simplement, il lui devait de l'argent et puis il ne savait pas comment lui rendre. Et puis il l'aimait pas, il voulait s'en débarrasser. Et malheureusement, comme il était toujours avec Otto à cette époque, Otto devait disparaître aussi.
Semaine après semaine, Carlos peaufine son funeste projet. Il imagine une mise en scène machiavélique pour faire croire à un règlement de compte mafieux. Mais il a besoin d'un homme de main. Ce sera Victor.
Il faut que toi, tu viennes avec moi. Je vais tout préparer là, maintenant. Tu me donnes un coup de main.
Pendant des jours, Carlos va effectuer des essais de tir dans son local avec Victor. Il va préparer son arme et son local en le protégeant avec du plastique. Le 11 janvier 1999, sa résolution est prise. Il va passer à l'action.
Carlos, accompagné de Victor, sont allés se procurer dans un magasin proche de Fribourg du mortier, enfin du ciment, des bacs à mortier, des truelles.
Carlos récupère deux barils en tôle. Sa panoplie est désormais complète. Reste à faire venir Otto et Philippe. Il prétexte un rendez-vous pour l'achat de la voiture d'Otto. Le piège se referme. Victor, de son côté, est déjà en place avec une mission bien définie.
Ta tâche après, c'est dès qu'on est une fois là-bas, moi je laisse déjà tourner la musique et puis toi tu la mets à fond et puis moi je vais les flinguer. C'est la seule chose à faire.
Les trois hommes arrivent au local, mais Victor panique et se réfugie dans sa voiture. Qu'importe, Carlos est déterminé. L'homme vide un premier chargeur sur Otto et Philippe achève sa sordide mise en scène.
Ensuite, Carlos va chercher Victor et puis tous deux, sous la direction, alors clairement, de Carlos, se mettent en besogne de mettre à exécution le plan pour se débarrasser des corps, à savoir d'introduire ces deux corps dans les tonneaux, puis de les bétonner.
Les deux hommes nettoient minutieusement le local, puis le repeignent. Mais Victor refuse d'aller plus loin dans l'horreur. Carlos a impérativement besoin d'aide pour se débarrasser de ses barils. Il appelle alors Bernard le lendemain matin pour finir le travail.
Carlos lui présente les deux tonneaux et lui dit « Là-dedans, il y a des corps et maintenant il faut s'en débarrasser. On va devoir aller chercher une fourgonnette, elle est réservée. On va y embarquer ces deux tonneaux et puis on va aller les ensevelir quelque part. »
Après plusieurs heures de route, les deux hommes arrivent à Lungern et jouent le dernier acte de cette sinistre mise en scène. Les policiers ont enfin des aveux, mais aucune preuve matérielle. Ils vont vérifier une à une les déclarations de Victor, à commencer par le magasin de bricolage.
On était chercher des bandes de caisses à ce magasin. Et puis, on avait de 20, 30, 40 de rouleaux de caisses à contrôler. Ça veut dire avec la marchandise qu'il nous a indiqué. C'était bien sûr un indice, mais quand même un indice assez bon, quoi.
Mais il leur faut plus d'indices. Ils s'acharnent et chaque élément découvert accable un peu plus Carlos. Des traces de peinture du baril orange sont découvertes sur la camionnette, mais aussi sur son diable.
Après, en démontant des bouts du sol, on a pu, après, au laboratoire, analyser, puis on a effectivement retrouvé des deux victimes, des traces de sang des deux victimes.
C'est désormais une certitude. Philippe et Otto ont été tués dans le local de Carlos. Avec Victor et Bernard, ils sont placés tous les trois en détention. Mais Victor a-t-il vraiment tout dit ? Carlos avouera-t-il au procès ? Et quelle est véritablement l'implication de chacun ? Le 16 octobre 2001, au tribunal de Fribourg, le procès de ce que tout le monde appelle désormais l'affaire des barils s'ouvre. Sur le banc des accusés, Carlos, Victor et Bernard.
C'était un procès très attendu. Il y avait beaucoup de participants, beaucoup de parties civiles, il fallait de la place. Et la presse était sur une tribune de côté.
Le procès s'ouvre dans une ambiance médiatique. Il y a un retentissement, c'est spectaculaire évidemment. Dans la région, il est peu courant qu'on ait des affaires d'homicide intentionnel déjà, mais alors avec ces caractéristiques-là, cette froideur et puis ce mode opératoire pour se débarrasser des corps, évidemment, ça suscite un très très grand intérêt.
Les familles d'Otto et Philippe attendent que la mémoire de leurs proches soit réhabilitée par une presse qui avait parfois noirci le trait des deux hommes. Carlos, inculpé pour assassinat, atteinte à la paix des morts et escroquerie, encourt la perpétuité. Dans le box des accusés, l'homme est relativement calme.
Carlos, de voir comme ça, jamais on pense qu'il est capable de faire commettre un crime pareil.
Au moment du procès, il est assez serein. Il a écrit une lettre avant le procès aux victimes. Pour s'excuser, l'écriture est une écriture tout à fait cohérente et il s'exprime assez bien. Il ne présente pas, disons, de grande tristesse. Il a un rôle passif.
Malgré ses excuses aux familles des victimes, Carlos campe sur ses positions et maintient sa version des faits.
Le procès se déroule un petit peu comme l'instruction, c'est-à-dire que Carlos s'accroche à sa version de la légitime défense, il n'en démord pas.
Pourtant, les experts qui se succèdent à la barre sont formels.
L'autopsie montre que certains des coups de feu ont été tirés dans le dos des victimes. Et ça exclut la légitime défense. Comme le fait d'ailleurs que 20 balles aient été tirées, exclut totalement la légitime défense.
Dans l'enceinte du tribunal, le sort de Carlos semble scellé. reste à déterminer le rôle de Victor et Bernard, les deux autres co-accusés, dans ce sordide double assassinat.
Victor, qui a quand même joué un rôle déterminant, il était là aussi pour faire nombre face aux victimes. Il aurait pu empêcher le drame, il n'a rien fait. Il a quand même une attitude criminelle extrêmement construite.
Et puis le troisième complice, celui qui arrive le lendemain à Piquet à débarrasser de corps, c'est vrai que c'était quand même quelqu'un qui interpellait aussi le tribunal, parce qu'on s'est dit, mais il est quand même fantastique ce garçon. Il arrive, son copain lui dit, je viens d'abattre deux personnes, ils sont là dans des tonneaux, etc. Viens m'aider à les transporter, on va les jeter dans un lac. Et puis lui, il dit, d'accord.
À l'issue de 15 jours de procès, Bernard est condamné à 2 ans de prison ferme pour recel de cadavres et atteinte à l'intégrité des morts. Victor, lui, écope de 7 ans pour complicité d'assassinat. Pour les meurtres d'Otto et Philippe, Carlos est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
15 ans après, ce qui reste quand même, c'est la barbarie des actes et la minutie de la préparation.
Ces 15 longues années auront permis de refermer les blessures des familles de Philippe et Otto. Mais jamais, elles n'oublieront les terribles circonstances de la disparition de leurs proches.
On avait en tout, entre Philippe et Otto, il y avait 6 sœurs, 2 épouses, 1 enfant. Ça fait quand même beaucoup de monde qui était quand même très très touché par cette affaire. Ça s'est terminé, elles ont pu faire le deuil et puis surtout dire voilà, maintenant cette histoire, elle est réglée pour elles.
Crime en Suisse se rend maintenant à Genève afin de vous raconter l'histoire tragique de Louis, un armurier de 82 ans, retrouvé mort dans sa boutique, un tournevis planté dans le thorax. Un document bouleversant pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le récit d'un simple braquage qui va se transformer en un crime sauvage. L'histoire d'un meurtre qui va venir bouleverser la quiétude de tout un quartier genevois.
C'est impressionnant parce que la victime est une personne âgée qui visiblement s'est fait massacrer par des individus, hein, ou des individus, on ne sait pas au début, et c'est ça surtout qui choque.
Nous sommes à Genève, en Suisse. Bordée par le lac Léman, cette métropole est l'un des poumons économiques du pays. Ses organisations internationales, ses banques, en font une des villes les plus influentes du monde.
Genève est une ville internationale. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup de gens qui viennent se réfugier en Suisse, espérant y trouver un Eldorado, ou en tout cas du travail. Il y a encore de l'argent, il y a des banques, on croit que tout le monde est riche et assis sur des lingots d'or.
C'est dans cette ville que Louis Dumollard, 82 ans, a choisi d'installer avec un ami son commerce, une petite armurerie située dans le quartier des Eaux Vives.
C'est un quartier de Genève qui est animé, qui a 2 facettes. Il y en a une qui est près du lac, qui est relativement chic, et à l'intérieur, plus populaire.
Au matin du mardi 2 avril 2002, ce quartier sans histoire va pourtant être le théâtre d'un drame sans précédent. Il est 8h55, les commerces du quartier lèvent peu à peu leurs rideaux. Maurice se présente au fancy de la rue des Hydrocs. Il pense y trouver Louis Dumollard, qui assure l'ouverture de son magasin depuis près de 20 ans.
Ce matin-là, M. Dumollard a rendez-vous avec un de ses amis, qui est également un armurier à Genève. Cette personne est en avance, donc elle décide d'aller boire un café en attendant l'heure officielle d'ouverture.
Le magasin ouvre habituellement ses portes à 9h. À quelques mètres de là, Marcia, coiffeuse et voisine de l'armurier, arrive à son salon. Il est alors 9h15.
J'avais entendu la cloche de sa porte. Donc, pour moi, c'était évident, lui, il était là.
De son côté, Maurice pense que Louis doit enfin être arrivé. Il est 9h20, l'homme remonte la rue en direction de l'armurerie.
La porte est fermée, mais normalement, il devrait être là, monsieur Dumelard. Donc, il pousse la porte, il entre.
Maurice est étonné. La porte d'entrée n'est plus verrouillée, mais aucune arme n'a encore été disposée dans les vitrines. Son ami est aux abonnés absents. Pourtant, en s'avançant vers le comptoir, Maurice se retrouve face à un véritable carnage.
Il voit le corps de son ami couché sur le dos, dans une mare de sang, avec le tournevis encore planté dans la région du cœur.
Louis agonise. Il y a urgence. Maurice appelle immédiatement les secours. Alors, que s'est-il passé en l'espace de quelques minutes au... La police genevoise ne le sait pas encore, mais elle va être confrontée à une affaire criminelle des plus inattendues. Aux eaux vives, ce mardi matin, personne n'imagine encore que la vie tranquille de ce quartier vient de basculer à tout jamais. Et c'est sous les fracas des sirènes que Marcia, la voisine de Louis, réalise le terrible drame qui s'est joué.
Quand vous entendez une voiture de police, une deuxième voiture de police, l'ambulance, une troisième voiture de police et des personnes qui couraient, c'est vite compris.
Louis Dumollard a été victime d'une agression d'une extrême violence. L'homme est entre la vie et la mort.
La police arrive et, comme d'habitude, prend toutes les mesures utiles en urgence. Donc il y a l'ambulance qui arrive, les médecins, un essai de réanimation, un essai vain.
Le vieil armurier vient de succomber à ses multiples blessures. Sur place, policiers et médecins constatent très vite que son ou ses agresseurs ne lui ont laissé aucune chance.
Monsieur Dumelard est mort de deux coups de tournevis, deux coups mortels, un au poumon et un dans le cœur. Mais en réalité, il en a reçu beaucoup plus.
L'autopsie réalisée dans le cas qui nous occupe a révélé 8 coups de tournevis, donc un acharnement effroyable.
Les policiers gèlent immédiatement la scène de crime et partent à la recherche du moindre indice. Mais leurs espoirs vont être rapidement déçus.
Il semblerait qu'effectivement il y ait très peu d'éléments au niveau scientifique dont dispose la police, si ce n'est une trace de semelle qui correspondrait à une chaussure type Reebok.
La pointure indique qu'il s'agit de l'empreinte d'un homme. Et si lui et ses complices éventuels ont laissé peu de traces, en revanche, ils ne sont pas repartis, les mains vides.
Apparemment, une vingtaine d'armes ont disparu, ainsi que de l'argent.
La thèse du braquage, qui aurait mal tourné, semble la plus crédible aux yeux des enquêteurs. Pourtant, ils ne veulent négliger aucune autre piste. D'autant plus que la rapidité d'exécution et la violence du meurtre pourraient aussi faire penser à une mise à mort. L'enquête s'annonce difficile.
La police fait son enquête de voisinage, ce qui est tout à fait évidemment habituel. Et dans le quartier, c'était le matin, mais les gens sont soit au travail, soit chez eux, mais personne n'a rien vu ni entendu.
La police consulte également le registre des ventes des jours précédents et contacte les clients de Louis Dumollard. Parmi eux, Eric, un habitué du magasin, qui va leur livrer un élément qui pourrait s'avérer capital.
On dit, si vous vous rappelez de quelque chose, vous nous rappelez, quelque chose qui vous revient par la suite, vous nous rappelez. Et c'est là, parce que j'ai repassé après, puis j'ai vu que la caméra que j'avais posée qui était tournée contre le mur. Alors je les ai rappelés, puis je leur ai dit, mais écoutez, moi j'ai posé une caméra qui est fictive, mais elle a été déplacée.
La caméra est immédiatement envoyé dans les laboratoires de la police scientifique. L'analyse révélera peut-être des empreintes et permettra d'élucider ce meurtre. Alors que l'enquête se poursuit, l'entourage de Louis, averti du drame, s'effondre.
C'est impressionnant parce que la victime est une personne âgée qui visiblement s'est fait massacrer par des individus, hein, ou des individus, on ne sait pas au début, et c'est ça surtout qui choque.
Famille, amis, commerçants, c'est tout le quartier qui est en deuil.
La cruauté des gens, ça fait vraiment mal. Moi, ça m'a fait mal en tout cas. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, ça m'a fait mal. Ouais, c'est horrible.
Les premières heures de l'enquête n'ont pas livré beaucoup d'indices. Deux thèses s'affrontent. La plus plausible, celle du braquage qui aurait mal tourné, et celle du règlement de compte. Alors les analyses des prélèvements relevées sur la scène de crime parleront-elles ? Saura-t-on qui s'est acharné sur ce vieil homme, sans défense ? Et surtout, pourquoi ? À Genève, le meurtre de Louis vient de plonger le quartier des Eaux-Vives dans l'effroi. Tous s'interrogent. Qui pouvait en vouloir à ce vieil homme, a priori sans histoire ? D'autant plus que l'enquête de personnalité discrédite rapidement la thèse du règlement de compte.
C'est une belle personne. C'est une personne qui a travaillé toute sa vie, un citoyen modèle, qui vivait une histoire d'amour avec son épouse depuis 60 ans.
Louis rencontre Marie, sa future femme, en 1935. À 17 ans, l'homme s'engage dans l'armée de l'air française pour défendre son pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Dominique a grandi au Grand Lancy, à côté de Genève, dans la maison attenante à celle du couple. Il garde un souvenir fort de Louis.
C'était quelqu'un de très très chaleureux. Il est très affable, il cherchait le contact avec tout le monde. Puis il avait aussi ce qu'on appelle un peu l'esprit français, il était toujours drôle, il avait une bonne répartie, un bon mot.
C'était un gentleman, c'était vraiment l'homme courtois, avec un langage esquisse.
Après l'armée, Louis se lance dans la vente de munitions et de poudre auprès des armureries. Bien plus qu'un travail, une véritable passion qui ne le quittera jamais.
Monsieur Dumollard, à sa retraite, ne voulait pas rester inactif. Et comme il était passionné de mécanique, et notamment de mécanique d'armes, il a décidé d'ouvrir une armurerie ou de reprendre une armurerie avec un de ses copains de collège.
Et très vite, ce petit magasin va devenir pour Louis et son ami leur refuge.
En fait, à l'intérieur de toute cette atmosphère des pistolets, des riflets, des plein de choses, il y avait une autre chose complètement différente, que c'était un lieu d'amitié, un lieu de discussion, de découverte. Ouais.
La boutique, loin des grands axes, se trouvait dans une petite rue calme, à l'abri des regards. Mais l'emplacement de ce commerce en faisait également une proie facile pour les voleurs.
Des gens qui parlaient avec M. Dumollard lui avaient dit « Mais est-ce que tu n'as pas peur qu'il se passe quelque chose ?» Une fois, lui, il disait qu'il faisait très attention et que de toute manière, il était toujours armé.
Une inquiétude légitime, car l'armurerie de Louis avait déjà été braquée quelques mois avant le drame. Les policiers se demandent alors s'il pourrait s'agir des mêmes auteurs. Il décide de suivre cette nouvelle piste.
Moi, j'ai suivi un tout petit peu par la presse, bien entendu. Non, toujours rien, toujours rien, toujours rien. Ils se sont passés plusieurs mois qu'il n'y avait rien du tout, pas de nouvelles.
Et pour cause, trois mois après le meurtre de l'armurier, les scellés envoyés au laboratoire d'analyse n'ont pas parlé. La caméra de vidéosurveillance ne présente aucune empreinte digitale. L'auteur de la trace de pas relevée à proximité du corps n'a pas pu être identifié et aucune des armes volées n'a refait surface.
La police patauge, elle trouve pas de, elle n'arrive pas à mettre une étiquette sur les auteurs du meurtre de l'armurier.
Les policiers genevois ont exploité toutes les pistes en vain. Seul espoir que les armes volées réapparaissent. Alors, le ou les agresseurs ont-ils quitté le pays ? Ou alors, sont-ils cachés à Genève ? Marie, la femme de Louis, saura-t-elle un jour qui a pu commettre cet acte odieux ? Le 1er juillet 2002, 3 mois après le meurtre sauvage de Louis, un incroyable coup du destin va faire basculer l'enquête. Un fait qui va emmener les policiers sur une piste aux antipodes de la vie tranquille et rangée de l'armurier.
La police genevoise est informée via les polices autrichiennes et allemandes qu'un jeune homme de 24 ans qui est étudiant a été kidnappé dans sa voiture sur une aire d'autoroute près d'Innsbruck. Et apparemment, cette personne est signalée à Genève avec ses kidnappeurs.
Les policiers commencent alors leurs investigations qui les mènent dans le quartier des Paquis, le quartier chaud de Genève.
Il y a une filature qui amène la police devant un immeuble à Genève, devant lequel il y a la voiture de l'étudiant allemand. Il procède à l'arrestation.
Deux hommes sont interpellés dans un squat et placés en garde à vue. L'étudiant, quant à lui, est sain et sauf. Il va alors faire le récit de son terrible calvaire. Tout commence le 29 juin. Alors que le jeune Allemand est sur une aire d'autoroute, deux hommes lui demandent s'il peut les prendre en stop. L'étudiant, qui ne se doute de rien, accepte.
En route, ces deux personnes décident de séquestrer l'étudiant allemand qui conduisait son véhicule. Il lui demande, sous menace d'une arme, de passer finalement derrière. Ils prennent le volant et avec comme objectif de se retrouver, d'aller à Genève.
Arrivé à Genève, l'étudiant est tenu en otage pendant plusieurs jours. Sa famille est alors contactée par les ravisseurs.
On va rentrer dans une espèce de correspondance avec la famille de ce jeune garçon et puis ses ravisseurs pour essayer d'obtenir une rançon.
Le calvaire de l'étudiant aura finalement duré 3 jours avant l'arrivée de la police. Alors que les auditions des kidnappeurs se poursuivent, les policiers perquisitionnent également le squat. Et là, surprise, ils vont y trouver des armes en quantité.
Peu à peu, il y a des zones d'ombre, notamment sur les armes, sur l'origine de ces armes. D'où viennent-elles? Ont-elles été dérobées? Comment? Qu'est-ce qu'elles font là?
Et alors là, c'est bingo, les armes ont été volées, et les armes ont été volées dans l'armurerie de Louis Dumollard, qui est mort 2 mois avant.
Les armes volées 3 mois plus tôt ont enfin refait surface. Et ce n'est pas tout. Un autre élément de la scène de crime va permettre aux enquêteurs de resserrer l'étau sur les kidnappeurs.
Un des inspecteurs va constater la similitude de la semelle de cette chaussure avec celle qui est déjà dans leur fichier et va constater que véritablement il y a curieusement un lien qui peut être fait entre l'armurerie et puis cet acte-là.
Fort de ces constatations, les policiers genevois décident de réorienter l'interrogatoire sur le meurtre de l'armurier. Et très vite, face à la pression des enquêteurs, l'un d'eux craque. Nous l'appellerons Alexei.
Et donc, il va se livrer et, on va dire, se soulager d'un crime et va avouer être l'auteur de la mort de l'armurier.
Alexei va également impliquer directement un de ses acolytes que nous appellerons Vladimir. Les deux hommes sont placés en détention provisoire et les policiers préviennent immédiatement Marie, l'épouse de Louis.
Elle était soulagée de l'arrestation de ses assassins parce qu'elle désespérait évidemment que l'on ne les retrouva pas.
C'est finalement une toute autre affaire qui aura permis d'élucider le meurtre de l'armurier. Reste maintenant aux enquêteurs à découvrir ce qui s'est réellement passé ce matin du 2 avril 2002 et surtout pourquoi d'une telle sauvagerie. À l'hôtel de police de Genève, les deux suspects, Alexeï et Vladimir, sont passés aux aveux. Face aux enquêteurs, ils font alors le récit du terrible drame de la rue Hydroquet.
Alexeï repère cette armurerie. Il va d'ailleurs se contenter de celle-là parce qu'elle convient assez, elle est un peu en retrait, de sorte qu'il devrait y avoir très peu de passages.
La veille du braquage, Vladimir et Alexeï effectuent des repérages dans le quartier, mais également à l'intérieur de l'armurerie. Ils y achètent un pistolet à air comprimé et constatent à première vue que la boutique est une cible facile.
Ils s'apprêtent à être des braqueurs, mais pas des meurtriers.
Le matin du 2 avril 2002, les deux hommes passent à l'action. Chacun a un rôle bien déterminé. Vladimir fait le guet devant la boutique, pendant qu'Alexeï entre chez l'armurier. Et c'est à ce moment-là que la vie de Louis va basculer.
Il reçoit deux coups sur la tête visant à l'assommer pour que après les agresseurs puissent prendre l'argent qui était dans la caisse.
Mais Louis a beau avoir 82 ans, il ne se laisse pas faire. Dans un réflexe de survie, l'octogénaire tente de repousser son agresseur.
Cette résistance-là va faire que plus tout va basculer. Et que finalement, les événements vont se succéder dans une forme de panique totale.
Vladimir, alerté par le bruit, entre dans le magasin, au secours de son comparse. Une véritable lutte commence. Un tournevis est attrapé à la volée. Les coups pleuvent.
Finalement, c'est Alexeï qui se saisit principalement du tournevis et donnera deux coups qui se révéleront être mortels à l'encontre de l'armurier.
À ce moment-là, l'assassin le tire et le cache ce ferreur derrière le comptoir. Il met des gants et il vole les armes, il remplit son sac et il part, laissant sa victime agonisante dans le magasin.
Au total, Vladimir et Alexeï volent 23 armes, plus l'argent de la caisse. Tout s'est passé en un quart d'heure. Pour eux, le braquage est réussi.
Quand ils quittent la boutique, ils ne savent pas que l'armurier est décédé. Ils partent avec ce sentiment d'avoir commis quelque chose d'infiniment grave, mais ils ne le sauront que plus tard.
Une fois les faits établis, les enquêteurs s'intéressent au profil des présumés coupables. Alexeï a 24 ans, il est ukrainien. L'homme a une formation paramédicale et un passé dans la Légion étrangère.
Il est allé d'un pays à l'autre, il a beaucoup voyagé. Mais il n'y a pas de point d'ancrage chez cet homme. Il n'y a jamais de stabilité. Il n'y a pas une stabilité familiale, il n'y a pas de stabilité professionnelle, il n'y a pas de stabilité affective.
Quant à son comparse Vladimir, il est lituanien. Arrivé depuis peu en Suisse, l'homme n'a ni famille, ni amis. Une âme tourmentée et ténébreuse qui aspire à des jours meilleurs.
Il a un rêve occidental, quitter la misère, quitter un peu le désœuvrement et s'installer dans un pays occidental, l'Eldorado helvétique, et refaire ou faire sa vie, puisqu'il a à peine 25 ans quand il commet les faits qui lui sont reprochés.
Ils sont probablement un peu dans ce même état, c'est-à-dire deux jeunes hommes sans projet, sans perspective bien définie, et il se retrouve à ce moment-là dans un même état d'esprit, mais sans qu'on puisse parler d'amitié, je crois que c'est véritablement de compagnons d'infortune.
L'absence de toute trace laissait penser à des professionnels. Les auteurs de ce meurtre sont finalement deux hommes, en errance, à peine entrés dans l'âge adulte. S'ils se défendent d'avoir voulu tuer l'armurier, pour les proches de Louis, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un assassinat. Le procès à venir saura-t-il répondre à leurs besoins de justice ? Le 21 février 2005, le procès de Vladimir et Alexeï s'ouvre enfin. 3 ans après les faits, les deux hommes sont inculpés de la séquestration de l'étudiant allemand, mais surtout de l'assassinat de Louis.
L'enjeu de ce procès, il se situe surtout au niveau du risque. Il y a, du côté du procureur général, très clairement, une volonté de convaincre les jurés qu'on ne peut plus rien faire de ces hommes-là, qu'il faut les extraire pour un temps indéfini de la société.
À Genève, ce procès est annoncé comme celui de la perpétuité. Dans les couloirs du palais, tous sont convaincus que cette peine exceptionnelle dans le canton sera prononcée. Marie, l'épouse de Louis, attend, elle, des réponses à ces questions.
Madame Dérale est une personne qui est déjà à moitié morte et qui vient en chaise roulante au procès. Elle est avec son Louis et elle a expliqué finalement qui était cet homme pendant une heure au juré en essayant de le faire revivre. Et c'est vrai qu'en l'écoutant, on avait l'impression qu'il était encore avec nous.
Pendant 3 jours, le comportement des accusés est passé au peigne fin. Si Alexeï est dans une attitude de remords évidente, Vladimir apparaît beaucoup plus froid.
Le juge d'instruction a montré les photos du cadavre à Vladimir et n'a absolument pas bronché. Je pense qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il s'effondre ou qu'il formule quelques regrets. Il est resté de marbre froid. C'est une image qui m'a frappé.
Pour les avocats des accusés, il ne s'agit pas d'une absence de remords, mais de leur tempérament, difficile à cerner. Ils défendent la thèse de l'homicide involontaire, d'un braquage qui aurait mal tourné.
Pour être assassin, il faut vouloir ce résultat-là, pas seulement prendre le risque qu'il survienne, mais vouloir véritablement ce résultat de mort. Et là, de fait, c'était quelque chose qui n'était absolument pas voulu, prévu, préparé. On avait véritablement des personnes qui souhaitaient être des braqueurs, qui voulaient être ces braqueurs-là, mais d'aucune manière des assassins.
Mais pour la partie civile, il ne fait aucun doute, il y a bien eu volonté de tuer.
Il s'agissait incontestablement d'un assassinat. Ils ont agi vraiment sans scrupule. Imaginez qu'ils l'ont laissé agoniser, ils ont tiré son corps, que quand il avait réussi à sortir le tournevis, les agresseurs lui ont remis un coup. Après, ils ont mis 8 coups de tournevis. Il est évident que les circonstances dans lesquelles les agresseurs ont agi sont des circonstances odieuses. Ils ont agi sans scrupule. Pourquoi ? Pour un motif économique, évidemment, l'assassinat était réalisé.
Les jurés vont suivre la thèse de la partie civile. Alexeï et Vladimir sont condamnés à 17 ans de réclusion criminelle et échappent de justesse à la perpétuité. Les proches de Louis, eux, sont soulagés. 12 années ont passé depuis l'assassinat de la rue des Cordiers. Et si le quartier suisse a retrouvé sa tranquillité, personne ici n'a oublié leur ami, armurier. Voisins, clients et amis gardent à jamais le souvenir de Louis, un homme bon, loyal et passionné.
Pour moi, j'ai perdu... Non seulement j'ai perdu l'ami, j'ai perdu les soutiens. Moi, il m'a manqué profondément. Il m'a manqué vraiment, vraiment.